D'accord, déballons un peu tout ça. Parce que lire une traduction moderne d'un texte antique, c'est un peu comme essayer de comprendre un mème ou une blague interne d'une culture vieille de 3000 ans.
Ouais, sans le contexte, la chute nous échappe totalement.
Exactement. On ouvre un livre, les phrases sont parfaites dans notre langue contemporaine, et on se dit, bah, le travail le plus dur a déjà été fait.
On présume que l'idée principale est là, bien servie sur un plateau.
C'est ça. Mais lorsqu'on s'aventure dans les méandres de l'Antiquité, et plus particulièrement dans le texte hébreu original qui occupe notre exploration d'aujourd'hui, le terrain devient très vite un vrai champ de mine linguistique.
Et culturel aussi, hein. Plaquer notre vision moderne sur ces écrits, ça fausse presque systématiquement les enjeux profonds.
Totalement. Et c'est la mission de notre analyse aujourd'hui, déconstruire nos réflexes de lecture. On va se baser sur la 16e session des enseignements du docteur John Walton sur le livre de Job, en se concentrant sur les chapitres 22 à 27.
C'est une section fascinante, ouais. Le fameux troisième cycle de dialogue.
Voilà. Et l'objectif, c'est de voir comment ce texte déconstruit l'idée toxique de la justice transactionnelle. Mais avant d'entrer dans la grammaire, plante un peu le décor pour nous. Quelle est l'ambiance à ce stade du récit?
Eh bien, l'atmosphère est hyper révélatrice. On est donc dans ce troisième et dernier cycle entre Job et ses amis, et un phénomène très net se dégage.
Lequel?
Les arguments s'essoufflent, complètement. L'énergie belliqueuse des amis de Job commence à se dissiper. Et ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement de l'empathie, hein.
Ah ça, non. L'empathie, ce n'est pas trop leur fort.
Ophar, l'un des amis, est réduit au silence total. Pas un seul mot.
Waouh, le silence radio.
Ouais. Et Bildad, un autre ami, fait une intervention étonnamment brève, presque expédiée. Dans la littérature du Proche-Orient ancien, ce genre de brièveté n'est jamais un accident.
Le silence parle, du coup.
Exactement. C'est le bruit sourd d'un paradigme intellectuel qui s'effondre sur lui-même.
C'est un silence assourdissant pour le coup. Et puisque le volume de leurs paroles diminue, j'imagine que le vrai défi pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la quantité, mais la complexité de ce qui est réellement dit.
Tout à fait. Prenons le tout début de ce cycle, au chapitre 22, Eliphaz lance une nouvelle attaque.
D'accord. Et que disent les traductions classiques sur ce passage?
Bah, généralement, on y lit des questions rhétoriques du genre « un homme peut-il être utile à Dieu » ou « Dieu a-t-il un quelconque intérêt à ce que tu sois juste
» S'adresse le portrait d'un Dieu un peu lointain, non?
Froid, qui se fiche de la moralité humaine.
Voilà, c'est la lecture traditionnelle des grands traducteurs. Mais Walton apporte un éclairage qui renverse complètement ça, avec une analyse grammaticale d'une précision chirurgicale.
Ah, je suis curieux. Il fait quoi exactement?
Il se penche sur la syntaxe hébraïque de ces versets, qui est notoirement alambiquée. Il la compare avec d'autres versets du même livre, comme Job 13, 7 ou 34, 9. Et il cible un terme spécifique, masquil.
Masquil, d'accord. Ça veut dire quoi d'habitude? C'est souvent traduit de manière générique par un sage. Et historiquement, on le place au milieu de la phrase. Mais Walton démontre que, selon les règles de l'hébreu ancien, ce mot devrait être le sujet de la phrase.
Attends, donc masquil ne désigne pas un homme sage au hasard?
Non, pas du tout. Ça désigne une figure très précise, un sage médiateur, un arbitre agissant au nom de Dieu.
Attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce que ce n'est pas juste de la subtilité académique de couper les cheveux en quatre, là? On déplace un sujet, on change un mot, pourquoi ça change la donne pour l'histoire?
Ah, je te garantis que ce n'est pas qu'un détail académique. Ça transforme la nature de l'arme psychologique utilisée contre Job. Il faut regarder les autres verbes.
Lesquels?
Par exemple, le verbe « sadak », souvent traduit par « être innocent », dans ce contexte, ça veut dire « se justifier soi-même ». Et le verbe « tamam », adouci en « être sans reproche », évoque plutôt l'idée de rendre des comptes complets.
D'accord, donc si on assemble tout ça avec le fameux médiateur, ça donne quoi?
Ça donne à peu près. Un tel sage médiateur peut-il apporter un bénéfice à un être humain? Dieu répondra-t-il favorablement quand tu te justifies toi-même? Y aura-t-il un gain quand tu rendras un compte complet?
Waouh! La différence de ton est massive!
C'est clair, non?
On passe d'une réflexion philosophique abstraite sur Dieu à une attaque personnelle d'une cruauté inouïe. Parce que, depuis le début, Job hurle son besoin d'avoir un avocat.
Exactement. Il veut un médiateur céleste pour plaider sa cause.
Donc, Eliphaz ne fait pas de la théologie de salon. Il utilise les mots de Job pour le poignarder.
Ouais. Il lui dit en substance, tu veux un médiateur? Tu penses vraiment qu'un arbitre divin va perdre son temps avec tes petites justifications pitoyables?
C'est vicieux. C'est vraiment fait pour isoler Job de tout espoir d'une justice supérieure.
C'est de la cruauté pure et dure.
C'est fascinant de voir comment une erreur de traduction peut masquer cette violence. Et ce qui est fou, c'est que cette incompréhension ne s'arrête pas à la grammaire ou aux relations humaines.
Ah non, ça va bien plus loin.
Ça touche à la structure même de la réalité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans Job 26,7, il est ce fameux verset qui dit que Dieu suspend la terre sur le néant.
Ah, le fameux verset préféré de l'apologétique scientifique moderne.
Voilà. On tape ça sur Internet et on trouve plein d'articles affirmant que la Bible avait anticipé la gravité ou l'astrophysique. On imagine notre planète sphérique flottant dans l'espace vide.
L'image est belle, mais c'est un anachronisme total.
On lit ça avec nos lunettes post-newtoniennes, quoi.
C'est le danger d'une lecture ethnocentrique, en fait. On force un auteur antique à parler comme la NASA. L'analyse de Walton déconstruit ça mot par mot. On plonge dans une cosmologie différente avec sa propre logique.
Ok, décortiquons ça. Le verset est dit que Dieu étend le septentrion, le nord.
Oui, le terme hébreu, c'est Saphon. Mais pour eux, Saphon n'est pas le pôle magnétique. C'est la montagne cosmique sacrée, là où les dieux se réunissent. C'est le lien métaphysique de l'univers.
D'accord, donc on est dans le mythologique, pas la boussole. Ensuite, il l'étend sur le vide. Le mot « Tohu », pour nous, c'est l'espace intersidéral.
Grosse erreur. Tohu qu'on trouve dans Genèse 1, avec Tohu Vabohu, ne décrit pas un vide physique. Pour un babylonien ou un hébreu, Tohu, c'est ce qui n'a ni ordre, ni fonction. C'est le chaos pur.
Le chaos pur, c'est-à-dire ?
Bah, le désert où rien ne pousse, où les océans primordiaux déchaînés, la mer, pour eux, c'était terrifiant, imprévisible. C'était le chaos qui menaçait l'ordre cosmique.
Attends, ça me fait penser, pour aider ceux qui nous écoutent à visualiser, c'est comme une chambre d'adolescent extrêmement en désordre.
Ah, j'adore cette analogie.
Les objets matériels sont là, le lit, les vêtements en boule, les cahiers. La matière existe, mais parce qu'il n'y a aucune organisation, on ne peut plus dormir ni traverser la pièce. Sa fonction a disparu.
C'est très juste.
Pour un esprit antique, conceptuellement parlant, cette chambre n'existe plus. Elle est retournée à l'état de Tohu. L'existence, c'est la fonction, pas la matière.
C'est la clé de toute leur philosophie. Et si on ajoute que le verbe traduit par « suspendre au-dessus », qui est « tala », signifie plutôt « accrocher sur » comme un piquet.
Ah, pas « flotter au-dessus ».
Non, « accrocher sur ». Et enfin, « eretz », traduit par la terre, fait référence ici au monde souterrain, le royaume des morts.
Donc, si on remet tout ensemble, ça donne quoi comme traduction réelle?
Ça donne « le ciel est étendu sur la non-existence cosmique, le monde souterrain est suspendu sur ce qui n'existe pas ».
Waouh.
Ce n'est pas de la gravité planétaire, c'est proclamer la maîtrise absolue de l'ordre divin sur les forces du chaos.
Si on relie ça à l'histoire, le contraste est saisissant. Job regarde le ciel, il voit cet ordre divin majestueux qui maintient le Tohu à distance.
Ouais.
Mais quand il regarde sa propre vie sur Terre, il voit que cet architecte cosmique a laissé le Tohu envahir sa réalité. Ses enfants sont morts, sa santé est ruinée, sa vie est devenue une chambre d'adolescent cosmique en désordre. Une non-existence fonctionnelle.
Et le pire, c'est que ce chaos n'est pas que matériel, il détruit aussi son réseau social. Dans l'Antiquité, les amis et l'hospitalité, c'était les piliers de l'ordre.
Et là, ses amitiés s'effondrent.
Totalement. Ses amis deviennent des agents destructeurs. Ils ne supportent pas l'incohérence. Eliphaz va jusqu'à accuser Job de crimes cachés, de voler les veuves, juste pour que le monde ait du sens.
C'est ça. Le raisonnement des amis, c'est l'apologie de la positivité toxique version antique. C'est le concept du distributeur automatique cosmique.
Le distributeur automatique.
Ouais, la loi de la rétribution. Tu insères une pièce de bonne action, la machine te donne de la richesse. Tu fais un péché, elle te donne une punition.
C'est très imagé, mais c'est exactement leur théologie. Hein.
C'est hyper sécurisant pour eux. Si Job souffre, c'est qu'il a fauté. Du coup, eux, s'ils se comportent bien, ils sont à l'abri.
Voilà. Et pour protéger cette sécurité mentale, ils doivent faire de Job le coupable. Eliphaz lui dit de se repentir pour récupérer ses biens. Un peu comme s'il devait aller faire des conférences de motivation après.
C'est l'ami toxique qui te dit de changer ton mindset pour manifester la richesse alors que ta vie brûle.
Exactement. Et Bildad, lui, dit juste que Dieu est grand et que l'humanité est pathétique. Du coup, la solitude de Job est terrifiante. Ses piliers spirituels sont devenus ses inquisiteurs.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour Job, concrètement? Il est acculé. La pression pour mentir et avouer de faux péchés doit être immense, juste pour qu'on le laisse tranquille.
C'est là le vrai point de rupture philosophique.
C'est le chapitre 27. Job va-t-il mentir pour soulager cette pression?
Et c'est là que le challenger, l'adversaire du premier chapitre, atteint sa réponse en fait.
Tout en fait. Au début du chapitre 27, Job fait un serment solennel. Et dans le Proche-Orient ancien, invoquer Dieu pour jurer, c'est appeler une malédiction sur soi si on ment.
D'accord. Et que jure-t-il?
Il jure que ses lèvres ne prononceront pas de mensonge. Et ici, le mensonge, ce n'est pas de cacher un péché.
C'est l'inverse, non?
Oui. Le mensonge, ce serait d'avouer un péché qu'il n'a pas commis juste pour plaire à Dieu ou récupérer ses moutons.
Ce serait nourrir la machine du distributeur automatique.
La question de départ, c'était « Existe-t-il une droiture désintéressée ? Job sert-il Dieu juste pour la santé et l'argent ?»
Le challenger pariait que la moralité de Job était conditionnelle, une simple transaction.
Mais en s'accrochant à son intégrité, en refusant d'avouer un faux crime pour récupérer ses biens, Job prouve que sa droiture a de la valeur en elle-même. Le cas du challenger s'effondre.
Attends, il y a une contradiction fascinante là-dedans. Je suis obligé de soulever le point.
Vas-y, je t'écoute.
Pendant des dizaines de chapitres, Job s'est trompé sur presque toute la ligne concernant Dieu. Il a accusé Dieu d'être un tyran, sa théologie est pleine d'erreurs, et pourtant c'est lui qui gagne le débat.
Ça soulève une question hyper importante, ouais.
Comment on peut avoir tort sur presque tout et quand même remporter la bataille de l'intégrité?
Eh bien, je pense que l'intégrité, ce n'est pas synonyme d'infaillibilité théologique. On a tendance à croire que posséder les bonnes doctrines fait de nous quelqu'un de juste, mais ce texte sépare ça.
Donc on peut être intègre avec une mauvaise théologie?
Absolument. Job ne comprend pas l'univers, mais son intégrité, c'est son refus absolu de compromettre sa vérité intérieure pour un gain matériel. Il préfère hurler son incompréhension honnêtement plutôt que de murmurer des mensonges pieux pour s'acheter du confort.
C'est puissant. Et à la fin de ce chapitre, il se sépare définitivement de ses amis toxiques.
Voilà, ça clôture le cycle des dialogues avant de passer au grand discours sur la sagesse au chapitre 28.
Waouh! Le voyage qu'on vient de faire est incroyable. On est parti d'un verbe hébreu obscur, ce fameux masquille médiateur dont on se moquait.
Oui.
On est passé par une fausse planète suspendue dans l'espace pour comprendre le tout-ou et l'ordre cosmique.
Tout à fait.
Jusqu'à la résistance absolue d'un homme face à la pression sociale de ses amis et de leur distributeur automatique cosmique.
Et ce n'est pas qu'une leçon d'histoire ancienne. C'est un rappel de l'importance de questionner nos propres prismes culturels.
C'est clair. Ça nous pousse à nous méfier de nos réflexes quand on lit un texte ou qu'on juge une personne qui souffre, refuser les explications faciles.
Et surtout, se rappeler que pour les anciens, valider l'existence dépendait de l'ordre et de la fonction. Et que la justice de Job a tenu parce qu'elle n'attendait aucune récompense financière.
Et ça, pour ceux qui nous écoutent, ça laisse vraiment matière à réflexion. Dans notre époque moderne, tout est transactionnel.
Oh que oui!
Chaque bonne action est souvent filmée, optimisée, monétisé sur les réseaux sociaux. On l'utilise pour améliorer notre image personnelle.
Le retour sur investissement social, quoi.
Exactement. Alors on peut se demander, est-ce que la droiture désintéressée dont Job a fait preuve, cette intégrité pure pour vaincre le challenger, ça existe encore aujourd'hui?
C'est une question troublante, en effet.
Ou bien, est-ce qu'on est devenu une société remplie de biens matériels, hyper connectés, mais qui, selon la définition cosmique de l'Antiquité, est dangereusement proche de la non-existence ?